D'une manière générale, quels sont aujourd'hui, petite question pour y passer deux heures, les enjeux pour la filière de Silver Eco en termes d'éthique et de qualité? C'est quoi les enjeux? Voilà, autour de cette question, concilier business et éthique. Les grands enjeux. Alors, le micro ne marche pas. Si, il va marcher.
J'ai bien compris votre message, donc on peut y passer deux heures.
Voilà, mais là vous aurez trois minutes ou quatre minutes, même si vous êtes président.
Écoutez, moi je voudrais, pour introduire ce débat, dire deux ou trois choses. La première, c'est quels sont, je me mets debout pour que
voir tout à fait,
quels sont les personnes auxquelles on s'adresse. On s'adresse, évidemment, et ça a été le cas de ce salon pendant très longtemps, aux personnes âgées en perte d'autonomie. Et là, évidemment, peuvent se poser des questions éthiques, puisque dès lors qu'on s'adresse à des personnes fragiles, alors oui, celui qui offre des services est dans l'obligation d'avoir un certain nombre d'obligations morales. Mais la silver economy, de plus en plus, ne se résume pas à une cible de personnes âgées dépendantes. De plus en plus, la silver economy, c'est une façon de proposer à un public de seniors des prestations adaptées pour que justement ils deviennent dépendants le plus long, de repousser en tout cas l'âge de la perte d'autonomie le plus loin possible. Donc la question éthique, elle se posait essentiellement parce qu'on était là par rapport à une population en fragilité. Je veux juste dire en introduction que la silver economy ne se résume pas donc à ce public fragile. La deuxième chose, c'est que on dresse, d'ailleurs vous n'y manquez pas dans votre introduction, à travers le terme d'Eldorado, de dresser un paysage de la silver economy qui serait grosso modo des entreprises privées avides de gains, se jeter sur une proie facile, d'autant plus facile qu'elle est nombreuse, que seraient les seniors. La silver economy ne se résume pas aux personnes âgées dépendantes, et la silver economy ne se résume pas à des entreprises privées. Elles sont évidemment des éléments essentiels de cet écosystème. Mais ce qui fait l'originalité et la force de la silver economy, c'est justement l'interaction qu'il y a entre différents acteurs. Et ne résumez pas la silver economy uniquement ni aux entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Évidemment que ceux qui produisent, ceux qui inventent des prestations, des produits, sont au cœur de la silver economy. Mais une entreprise toute seule, dans la silver economy, c'est rien. La silver economy, c'est un assemblage. Ce sont les entreprises, ce sont les collectivités locales. Pas de silver economy sans les régions, pas de silver economy sans les conseils départementaux qui financent l'APA. Pas de silver economy sans les communes ou les agglomérations qui de plus en plus vont construire à travers leurs documents d'urbanisme la ville adaptée de demain. Pas de silver economy sans les organismes de protection sociale. Regardez la place que prend dans notre écosystème les CARSAT, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, parce qu'elle est investie dans l'action sociale. Regardez la place que prennent des organismes de protection sociale complémentaire comme la GIRC, l'ARCO, Médéric Malakoff, des mutuelles, Harmonie, etc., qui sont des éléments essentiels parce qu'ils vont jouer l'interface entre leurs usagers et les producteurs de services. Dans l'écosystème, il y a tous ceux qui sont ici, les services d'aide à domicile, qu'ils soient privés ou publics ou associatifs. Il y a évidemment le monde des EHPAD. Donc c'est ça la silver economy. C'est un écosystème où chaque acteur se nourrit de l'autre. Donc ce ne sont pas des entreprises privées qui vont exploiter des personnes fragiles. C'est une vision caricaturale, c'est pas la vôtre.
Non,
mais
bien sûr.
C'est celle qu'on lit souvent quand on veut vite rentrer dans le sujet. En réalité, ce sont des acteurs divers et variés qui vont créer les conditions de l'adaptation de notre société au vieillissement. Et c'est ça qui est donc assez passionnant, c'est que on sort du seul secteur médico-social, on sort de la seule problématique de comment on va apporter des soins, de l'aide aux personnes âgées en fragilité. C'est comment les banques demain vont adapter leurs produits financiers à une population vieillissante. C'est comment les fabricants de meubles, c'est déjà le cas, vont monter des meubles à hauteur variable pour s'adapter aux personnes âgées à domicile. C'est une vaste panoplie d'entreprises, de services qui vont s'adapter. Et donc, du coup, il y a tout ce qu'on peut prévoir aujourd'hui. Il y a quand même des barrières pour parler d'éthique. Donc, du coup, il y a des barrières parce que, une fois de plus, les entreprises privées ne sont pas seules. Il y a les pouvoirs publics, il y a les organismes de protection sociale, il y a tout cet écosystème qui fait d'une certaine manière écran pour qu'à un moment donné, nous soyons en responsabilité. Ensuite, il faut quand même organiser ce marché. Car marché, il y a bien. Et ce n'est pas un gros mot, le marché. Le marché, c'est quand il y a une demande et qu'il y a une offre de service. Donc ce marché, il faut l'organiser. Progressivement, il faut que 100 000 fleurs éclosent et puis après, qu'on s'occupe quand même de faire des vases. Bon. Nous, à France Silver Eco, on a commencé ce travail-là, soutenu par la CNSA, justement, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à travers un site de référencement des produits du bien vieillir. C'est-à-dire, à un moment donné, dans cette profusion de biens et de services, on va regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on va le regarder à travers justement un comité qui soit indépendant et qui puisse juger de si oui ou non on peut figurer sur ce portail. Et l'idée, c'est que dans un an et demi, deux ans, tout ça n'est pas non plus... il faut un peu de temps pour construire ça, les pouvoirs publics, les usagers, les financeurs puissent, à travers un portail, voir l'ensemble des prestations qui marchent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à organiser de façon rationnelle et éthique le marché. Et puis un dernier mot, ce qui fera la transition avec l'intervenant suivant qui vient de s'emparer de cette question à nouveau parce qu'elle est cruciale, c'est que tout va avancer très 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 vite. Tout va avancer très vite. La silver economy aujourd'hui, c'est le capteur de chute, mais dans quelques années, c'est la voiture sans chauffeur. C'est un certain nombre de produits, de projets techniques qui sont devant nous et qui sont dans les travées de ce salon aujourd'hui, mais c'est aussi tout ce qu'on appelle le transhumanisme, toutes ces recherches qui vont à une vitesse grand V et qui là, à un moment donné, oui, vont poser la question de l'éthique. Jusqu'où les nanotechnologies, les biotechnologies, jusqu'où les recherches qui aujourd'hui sont extrêmement vivaces, jusqu'où vont-elles nous amener? On sait d'ores et déjà qu'elles vont nous permettre de vivre plus longtemps en bonne santé. C'est une bonne nouvelle. Mais comment? Qui? Est-ce que c'est une filiale de Google en Californie qui va décider si vous vivrez plus ou moins longtemps et combien ça va vous coûter au demeurant? Donc on voit bien que la silver economy qui en est encore à sa préhistoire peut encore contrôler aujourd'hui ce qu'elle fait. Mais on voit aussi que les progrès de demain, les forces de demain qui vont s'agiter, vont nous poser des questions éthiques absolument cruciales. Or, on a l'habitude de dire qu'en Asie, aux États-Unis, quand on fait une découverte, on cherche rapidement comment elle va rapporter de l'argent. Et puis nous, en Europe, quand il y a une découverte, on se pose rapidement la question, quelles sont les barrières éthiques à développer? Bon, je ne sais pas si c'est ça le partage du monde de demain, mais en tout état de cause, nous revient la nécessité par rapport à ces progrès qu'on voit déjà au quotidien, les progrès numériques, l'intrusion des informations, l'intrusion des nouvelles technologies dans le domicile privé de la personne âgée, commence déjà à poser des problèmes éthiques, la gestion évidemment des big data, des données, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données, nous pose des questions évidemment essentielles. Je crois que ce sont des questions qui évidemment ne s'adressent pas seulement aux professionnels, c'est d'abord et avant tout des questions politiques, des questions institutionnelles qui devront être au cœur du débat politique dans la prochaine décennie et avec des enjeux bien plus lourds que ce qu'on a à gérer aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette introduction. Vous avez bien planté le décor. Alors, vous nous avez rassuré. Vous venez de nous dire, finalement, que la silver economy, c'est un écosystème et que la préoccupation principale, c'est quand même la qualité, l'éthique au service des clients, consommateurs de ces produits et prestations. On va demander à notre sociologue s'il est bien d'accord avec vous. Parce qu'un sociologue, ça fait des recherches, ça fouille, ça fait des travaux, ça essaie de vérifier sur le terrain. Je voudrais être certain, Monsieur Serge Quérin, à partir de vos travaux, qu'on ne s'engouffre pas dans la silver economy en disant bah, c'est un Eldorado, il y a des volailles à plumer, il y a des poules aux œufs d'or, et j'y vais parce que ça va me rapporter gros. Est-ce que vraiment on a toujours l'éthique, la qualité en tête dans ce marché, d'après vos enquêtes? Puis vous nous direz ensuite ce qu'ils pensent, les clients, les seniors, que ce soit les personnes âgées dépendantes ou non,
comment ils ont le sentiment d'être, qu'on les perçoit comme des vaches à lait ou au contraire comme des gens qu'on veut respecter, à qui on veut apporter un vrai service. Grosse question là encore. Hein. Alors, pas plus d'une heure pour répondre.
Oui, là aussi,
voilà,
on
aille assez vite.
On pourrait y rester longtemps. D'ailleurs, pour faire écho à ce que vient de dire Luc, la silver economy fonctionne d'abord en fonction des silver, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui attendent, qui en ont besoin, et ainsi de suite. C'est quand même ça le premier sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept sorti de nulle part. C'est d'abord une notion qui existe parce qu'il y a aujourd'hui 15 millions de personnes depuis 60 ans. Parce qu'il y a un fait social qui est des millions et des millions de personnes, des femmes, des hommes, qui sont directement confrontés. Et puis parce que les autres, les 51 millions d'autres personnes, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'un jour devenir des seniors. Parce que s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont morts avant. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même. Voilà. Donc ça veut dire que finalement, ça concerne l'ensemble de la société. Et la silver economy, c'est d'abord ça. C'est finalement une économie qui souhaiterait répondre ou inventer des réponses par rapport à des besoins, des demandes, des usages, avec et pour ces personnes. Mais finalement, c'est en fin de compte très souvent des objets, des services qui peuvent intéresser plein d'autres personnes, qui intéressent les enfants des premiers, parfois, en disant, bah, tiens, on voudrait un peu se rassurer, telle chose, mais qui aussi peuvent très directement impacter la vie d'autres personnes. Il y a, pendant des années, le monde du handicap a demandé dans les collectivités, a dit, ça serait bien quand même si pour prendre le bus, il n'y avait pas des marches, mais des systèmes de plateforme. Parce que quand on est en fauteuil, quand on n'y voit rien, quand tout ça, ça serait quand même plus simple. Et puis, bah, elles n'ont pas tellement bougé. Le jour où les villes ont découvert qu'il y avait autant de personnes âgées, ils se sont dit, oh là là, pour ces personnes-là, il faut peut-être qu'on fasse attention à cela. Et du coup, c'est parce qu'il y a eu une influence du nombre. Et donc, c'est les personnes âgées qui s'y retrouvent, c'est les personnes en situation de handicap qui s'y retrouvent, mais c'est aussi des personnes, j'ai pas dit des femmes, qui ont des landaus, par exemple. Ça peut être des enfants, ça peut être des gens comme moi, d'ailleurs, qui sont pas bien grands, que ça arrange bien de pas avoir 14 marches, enfin, que sais-je encore.
Le vélo à faire rentrer dans le tram.
Donc, voilà. Et donc, personne, il n'y a pas une manifestation, on aime bien les manifs en France, il n'y a pas une manifestation de gens en disant on veut retrouver des marches. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça a finalement intéressé et amélioré la vie de tout le monde. Donc la silver economy, c'est d'abord finalement une vision globale et globalisante de l'être humain, qu'il y ait pris un peu d'âge ou pas, et c'est en fin de compte quelque chose qui, d'une certaine manière, va irriguer et est irrigué par l'ensemble de la population. Ça, je crois que c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est en effet la question des usages. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'inventer juste pour le plaisir, c'est bien de répondre à des besoins, à des attentes, ou de repérer des choses qu'il manque. C'est aussi ça. Et puis, le troisième élément majeur de la silver economy, c'est à la fois la question de répondre à des besoins parfois particuliers, et puis aussi répondre à des logiques de territoire. Parce que selon l'endroit où je vis, au même âge, je ne vis pas du tout la même chose. Il y a, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de villes, de régions, de départements qui développent des gérontopoles. J'ai vu quelque part dans la salle Valérie Gloff, par exemple, qui est vice-présidente à la région Normandie. Ils sont en train de lancer un gérontopole pour la Normandie. Parce que simplement, en fonction des territoires où je vis pas mon âge de la même manière. Et donc, il faut aussi adapter en fonction des réalités et pas juste faire un truc comme ça un peu général. Donc la question des territoires, elle est majeure. Et l'autre question qui est tout aussi majeure, qui est celle des services, des besoins. Par exemple, il y a un des besoins, une des problématiques majeures, c'est la question des aidants. Et là aussi, qui concerne aussi bien les gens âgés que des gens jeunes. Beaucoup plus jeunes. Les bien aidants, sûr. Ça peut être, on peut accompagner quelqu'un de très âgé, mais on peut aussi accompagner quelqu'un qui est touché par une maladie chronique, ou un enfant qui est touché par un handicap. Et on voit bien que finalement, ça se recouvre. Et là, vous avez aussi la question des aidants. La moitié des 8,5 millions d'aidants sont des seniors. Les autres ne sont pas. J'ai vu Claudie Culac tout à l'heure. Pareil, il y a Compagnie des aidants, des structures comme ça qui sont là pour se développer. Il y a Joël Rioux qui a créé Responsage. Il est aussi, j'ai vu dans la salle, il y a plein de monde dans cette salle. C'est incroyable. C'est l'idée aussi de, je suis dans une entreprise, je suis donc peut-être relativement jeune, j'ai peut-être 25 ans, mais déjà j'ai un problème avec peut-être un enfant qui est touché par le handicap. J'ai 55 ans, j'ai un problème avec un parent qui est touché par le handicap, par le grand âge, ainsi de suite. Je fais quoi ? La silver economy, c'est par exemple, Responsage, c'est un système où les gens vont s'abonner et du coup vont pouvoir être accompagnés, vont pouvoir être aidés. C'est ça la silver economy, c'est répondre à des réels besoins et pas nécessairement juste des inventions. Il peut y avoir des inventions, mais c'est surtout comment on accompagne les évolutions de l'âge dans toutes les dimensions de l'âge.
Alors, simplement, vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Quand on s'intéresse aux segments de population, enfin je dis segments, il y en a plusieurs, à partir de 50 ans, les seniors, comment ils réagissent? Depuis 10 ans, on a vu se multiplier, il y a des tonnes, il y a des avalanches de produits, de prestations qui ont été proposés aux seniors, aux personnes âgées, dépendantes ou non. Ils disent, c'est quoi cette avalanche? On en veut à mon argent, parce qu'en général, quand on approche de l'âge de la retraite, on a fait sa carrière, on a un peu de revenus, enfin, bon, voilà. Comment ils réagissent? Est-ce que vous avez fait des enquêtes là-dessus? Comment ils réagissent face à ça, face à tout ce business?
Alors, déjà, au risque de décevoir beaucoup de gens, les seniors n'ont pas toujours tant d'argent que ça.
C'est juste.
Et ils vont même en avoir de moins en moins. Je rappelle que la pension moyenne en France, c'est 1300 euros, et pour les femmes, c'est 1000 euros. Donc, ce n'est pas la misère, mais ce n'est pas non plus le grand train. Alors, il y a aussi des gens qui ont plusieurs milliers et milliers d'euros de retraite et puis qui ont un patrimoine important. 75% des retraités sont propriétaires de leur maison. Mais parfois, c'est un 100 mètres carrés dans le 15e arrondissement. Parfois, c'est une petite maison à 50 km de Provins. Et le jour où on veut la revendre, on découvre qu'elle ne vaut pas grand-chose. Hein, donc, ça dépend vraiment des situations. Donc, déjà, il y a ça. Et en effet, le deuxième élément, c'est est-ce que la silver economy, c'est juste une affaire de comment piquer le pognon,
oui.
Si possible en inventant des technologies plus ou moins farfelues. Alors, la réalité, je crois que Luc a parlé du marché, il a dit que ce n'était pas un gros mot. Le marché, il a un truc pas mal souvent, c'est que parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils n'achètent pas, quoi.
Ça marche pas.
Ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, en fin de compte, oui, il y a des gens qui vont comme ça. Oui, il y a des gens, j'écoute des gens qui ont des boîtes et tout ça, quand ils vous parlent des gens âgés, je ne sais absolument pas de qui ils parlent. Je crois que jamais ils sont allés même en voir un. Donc voilà. Et ceux-là, je leur souhaite bien du courage. Alors, ils vont récupérer parfois quelques subventions. Ça peut tenir un temps, mais ils vont disparaître. Voilà, il y en a beaucoup déjà qui ont disparu. Beaucoup d'autres vont disparaître. Mais c'est aussi la loi, tout simplement, de l'économie. Et puis, il y en a d'autres qui vont essayer de mieux répondre. Et je crois que c'est un des projets, d'ailleurs, de France Silver, c'est d'accompagner ce type d'approche. C'est qui vont mieux répondre aux besoins, aux attentes, qui vont aussi y répondre dans une économie accessible. Parce que les subventions, il n'y en a plus des milliards, parce que les collectivités, elles ne peuvent plus tout payer, et parce que les gens, encore une fois, ils n'ont pas tous les moyens du monde. Donc c'est comment on répond à des vrais besoins dans des conditions accessibles financièrement. Et derrière, l'élément majeur, il est tout bête, il est de ne pas répondre pour les seniors, il est bien de répondre avec les seniors et de s'intéresser un petit peu à ce que ces personnes-là entendent, veulent, et même
alors,
parfois,
on va
c'est
développer,
elles qui créent
les projets. Ça fait partie des critères pour conseiller business et éthique. En tout cas, merci de nous avoir assurés, grâce au marché, ceux qui ne privilégient que le business et pas l'éthique et pas la réponse aux besoins réels, ceux cassent la figure. C'est un peu ce que vous avez dit. Messieurs, si vous le voulez bien, je vais vous laisser en attendre 5 minutes, en sachant que tout à l'heure, je me suis tourné vers l'un ou vers l'autre en faisant la présentation de l'autre, mais on aura rectifié nous-mêmes. On va se tourner vers la seule dame de cette assemblée, Véronique Hylaine, spécialiste du design thinking et gérante fondatrice de la D-School. Alors, voilà, je voudrais vous expliquer très simplement ce que c'est que ces deux notions. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette D-School et le design thinking. Et en quoi cette notion de design thinking, elle a un rôle à jouer pour aider une entreprise à concilier business et éthique. Alors, la D-School que vous avez fondée, c'est quoi en deux mots?
Oui, donc on est dans le mouvement mondial du design thinking et des D-Schools. J'ai créé donc la D-School Paris dans ce mouvement. Ce mouvement a été impulsé en 2005 et finalement la formalisation de la pratique courante dans la Silicon Valley sous forme de transdiscipline. Cette transdiscipline permettant en fait de guider des équipes multidisciplinaires pour mieux innover. Donc nous avons un mantra où à chaque fois nous commençons par ce qui peut être désirable pour les gens. Donc on va aller essayer de chercher ce qu'on attend, ce qu'on appelle ces fameux besoins, ces fameux usages, capter en fait ces besoins et ces usages. En fait c'est difficile, alors on ne va pas les capter sous un angle sociologue, c'est-à-dire que nous on veut juste frapper juste ce qu'il faut pour pouvoir en fait créer des nouveaux produits et des nouveaux services. On va utiliser donc ce qu'on appelle de la recherche ethnographique, c'est-à-dire qu'on va aller observer, on va aller comprendre, on va aller discuter avec les gens pour comprendre quelle est leur expérience telle qu'elle est aujourd'hui, afin d'en déterminer les contraintes, les problèmes, les attentes, et éventuellement les rêves et les désirs, et pour pouvoir réinventer, redesigner cette expérience pour une expérience plus merveilleuse. Donc le design thinking est une philosophie, est une culture d'exploration, est une méthodologie pour pouvoir accompagner donc ces équipes multidisciplinaires et innover plus efficacement. Comment on l'a... Donc, pourquoi la D-School à Paris ? Ça fait 20 ans que je suis dans l'innovation. Et c'est vrai que quand je suis allée à la Silicon Valley pendant un an, j'avais l'impression de tomber dans une marmite merveilleuse. C'est-à-dire que c'est très efficace. Avant, on le faisait d'une façon spontanée ou d'une façon intuitive. Là, on le fait d'une façon formalisée et diffusable à tout le monde. Avec évidemment, donc on a des formats pédagogiques de découverte, intermédiaires, avancés. On est un incubateur, donc on a voulu en fait la D-School Paris sous deux angles. Un incubateur en fait de start-up et un incubateur de projets innovants en coopération avec des grands groupes. Donc cette année, on travaille avec Bosch, Nestlé, Tarkett et Roland-Garros pour pouvoir finalement incuber leurs grands projets d'innovation qui vont créer de la croissance organique au sein de leur entreprise. Et on a cette spécialité, on la veut parce que personnellement je suis touchée, ma maman a accompagné des personnes âgées jusqu'à la mort pendant de longues années, et donc à la fois sur ma sensibilité senior et puis parce que j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui était une de mes anciennes élèves et qui est là dans la salle et qui crée une start-up à Inar et qui est aussi passionnée que moi pour pouvoir créer des produits et des services pour les seniors. Et donc on a cette best practice, cette expertise centrée utilisateur senior. Au sein de la D-School, on en a trois autres, l'IoT, les bâtiments éco-efficaces et comment créer des produits pour les gens en dessous du seuil de pauvreté. Et donc dans la D-School Paris, on veut voilà, ces deux incubateurs de projets innovants et ces spécialités parce que on veut, c'est très important d'avoir une expertise utilisateur et de contexte pour pouvoir adapter nos méthodologies aux seniors. Donc comment on adapte nos méthodologies aux seniors ? On a déjà fait une quinzaine en fait de projets. On a fait ce fameux meuble de salle de bain que vous avez peut-être déjà découvert et qui est sur le stand La Paire Vita Confort au salon là de la Silver Economy.
Il faut aller le voir, c'est intéressant.
Et oui, qui a été en fait et qui est dans tous les magasins La Paire. Ce meuble de salle de bain, une des choses qu'on a compris par nos recherches ethnographiques, c'est que finalement les gens faisaient des allers-retours entre leur salle de bain et leur cuisine ou leur chambre pour pouvoir se reposer parce qu'il n'y avait pas de position assise dans la salle de bain. Donc j'ai souvent en fait tendance à dire que pour frapper juste, il faut juste voir l'évidence de l'expérience des gens telle qu'elle est. Je ne peux que abonder sur ce qu'a dit Monsieur Broussy en début. Il ne faut pas prendre les gens, faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Personnellement, donc, je suis à 2 ans d'être déjà considérée comme un senior selon certaines classifications administratives. Donc il faut faire attention au fait de bien capter l'expérience telle qu'elle est. Senior ou pas senior, c'est plus vraiment en fait pour moi la vraie en fait question. La vraie question, elle est de capter l'expérience telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir l'améliorer telle qu'elle doit être demain, selon en fait notre processus qui reste efficace parce qu'il reste très proche de ce que vivent les gens et de ce que veulent vivre en fait les gens.
Donc vous êtes en train de nous dire, Madame Hélène, d'après votre expérience d'expert auprès des utilisateurs, auprès des seniors, j'avais envie de vous poser la même question qu'à Serge Guérin. Ces seniors, finalement, ils sont reconnaissants de tout ce qui se passe en ce moment en leur faveur. Ils voient avant tout la dimension éthique, justement, qualité des produits, adaptés à leurs besoins. Ils ne se disent pas, on en veut avant tout à mon argent, sachant
oui,
qu'ils n'ont pas
tous
de gros revenus.
Oui, je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, d'une façon générale. Et souvent, en fait, quand on est un innovateur ou un entrepreneur, vous savez, c'est comme le film Le Grand Turino, où en fait sa belle-fille arrive en fait avec un téléphone avec des
avec
grosses
Clint
touches
Eastwood, un beau
pour
film.
Clint Eastwood, et puis qui la regarde et qui évidemment, non, évidemment que ça ne marchera pas. Les gens veulent le meilleur qualité-prix, et surtout, ce qu'ils veulent, c'est vivre une expérience merveilleuse. Quand on commence à avoir finalement tout, c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus en fait ses besoins fondamentaux sont finalement satisfaits. Et c'est pas là que on va chercher en fait une différence. On va vouloir en fait accomplir des rêves, des désirs, aller en fait sur des satisfactions d'expériences émotionnelles et fonctionnelles qui vont aller bien au-delà de juste une satisfaction basique en fait de besoins, puisque finalement on a déjà à peu près tout ce qu'il faut. Donc il faut être beaucoup plus fin dans capter les gens, surtout pas les prendre, apporter en tant qu'entreprise toujours le meilleur qualité, rapport qualité-prix. Donc je pense que je pense que vous allez en parler beaucoup plus tard.
On va y revenir, on va redétailler tous ces critères qui permettent
de bien... Et c'est important en fait de rester dans une logique d'innovation, mais d'innovation en fait comme tout innovateur, ne pas prendre les gens pour des abrutis, et puis faire son boulot de responsabilisation, de capter la meilleure expérience. Et ensuite, par cycle, nous on a des cycles itératifs de tests sur des prototypes expérientiels réels en contexte réel, où on essaye finalement de voir quel va être l'impact le plus fort, quelle va être la plus grande valeur ajoutée qu'on va pouvoir en fait apporter à ces utilisateurs finaux pour qui on veut innover, de telle façon que la proposition de valeur soit au maximum d'une expérience idéale, réinventée, merveilleuse. Donc on cherche toujours l'effet waouh et l'effet surprise dans les produits et les services qu'on crée. Et surtout, je pense que le public des seniors est un public... donc quand on commençait à dire senior, personne ne s'entendait sur même une définition. C'était plus de 45 ans, plus de 55 ans, plus de 65 ans. Quand nous, on a commencé nos recherches ethno sur le terrain, les gens, personne, même quelqu'un qui avait plus de 80 ans, ne se définissait pas comme un senior. Donc, alors on peut plus ou moins se définir par rapport à des niveaux de dépendance, en effet, mais ça, c'est une approche très médicale. Nous, on définit les gens par rapport à des scénarios de vie, et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes retraités très actifs, et qui ont beaucoup de projets et qui, d'un seul coup, n'ont strictement rien à voir avec une définition, on va dire, classique ou stéréotypée d'un senior. Donc la finesse du design thinking permettra d'apporter des scénarios de vie et des captations, en fait, d'expériences de gens de façon nettement, pour vraiment, vraiment dépasser ces images d'épinal qui sont totalement stéréotypées et fausses, en fait, par rapport aux gens.
En tout cas, on a bien retenu votre leçon. Ne prenons pas les seniors pour des abrutis. Vous avez utilisé un autre mot. Grande leçon. Il faut noter les recettes. Il ne faut pas les prendre pour des abrutis. Alors, on va aller dans des entreprises, puis on va aller dans des établissements qui s'occupent de grands seniors, et puis également des établissements hospitaliers tout à l'heure avec monsieur Gogla. Mais d'abord, avec vous, monsieur Vallée, donc patron, directeur d'Intervox. Comment est-ce que vous faites dans votre entreprise pour concilier business et éthique? Comment vous intégrez ces dimensions. Bon, expliquez-nous un peu ce que vous faites.
Déjà, j'ai un petit peu de mal avec cette notion-là, parce que pour moi, c'est des notions qui ne sont pas... On peut faire du business et être dans l'éthique. Je veux dire, pourquoi on oppose ça? Pour moi, la réalité de l'entreprise, c'est qu'on est là pour concevoir des produits qui répondent à des besoins. S'ils ne répondent pas à des besoins, de toute façon, la sanction, elle tombe immédiatement, c'est qu'on ne les vend pas. Il faut que ces produits-là soient dans un prix acceptable aussi pour le consommateur. Il faut qu'il trouve effectivement que ces produits répondent à un besoin et que par rapport au besoin qui est satisfait, le prix est correct. Voilà, après ça s'arrête là. Alors effectivement, comme le disait Luc Broussy, quand on s'adressait qu'à des gens fragiles, qui souvent étaient même difficilement en mesure de décider par eux-mêmes, oui, il y avait ce risque-là. Mais aujourd'hui, pour moi, un senior, c'est un consommateur comme un autre. Et donc nous, on le traite dans nos entreprises comme un client, comme un autre. Simplement, il a des besoins des fois un peu différents. Ce qui était le plus dur pour nous, et peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont dites, ce que je peux rajouter, c'est peut-être faire part un peu de l'expérience qu'on a pu avoir, nous, avec un produit. Comment ça s'est passé.
Un exemple justement concret de produit qui répond à ces critères.
Juste pour illustrer un peu concrètement la démarche d'une entreprise, nous, on a notre siège en Limousin, hein, le groupe Legrand, donc il y a... On est dans un berceau où il y a beaucoup de seniors, hein, c'est une des régions les plus âgées d'Europe, et on a été sollicité il y a 7-8 ans par des élus, hein, on parlait tout à l'heure des départements, des collectivités territoriales, par des élus qui cherchaient à favoriser le prolongement de la vie dans les domiciles. Sauf que rester chez soi plus longtemps, oui, il faut des services, évidemment, il va falloir se faire aider un petit peu, mais il va falloir aussi adapter le logement et y intégrer un certain nombre de choses. Nous, on n'y connaissait rien. On est arrivé là-dedans avec nos savoir-faire de métier d'électricité. On était au début de la domotique, hein, donc des systèmes un peu automatiques pour piloter ses volets, ses lumières, son portail, etc. Et en fait, on a appris, parce qu'on a été sollicité, de la part de gériatres, d'ergothérapeutes, et puis au contact de groupes de personnes, on a appris sur les besoins. Qu'est-ce qui vous est rendu compliqué dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous saviez faire facilement et qui petit à petit devient un peu plus difficile à faire. Par rapport à ça, on a identifié nous une grille de besoins et on a essayé de regarder si dans nos catalogues, on n'a rien inventé de spécifique. Dans ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait finalement remplir c'est presque, moi j'appelle ça souvent notre offre, c'est de l'usage détourné, c'est-à-dire qu'on avait un usage initial. Je prends l'exemple, vous avez un détecteur de mouvement qui allume une lumière. On a ça depuis des années pour allumer la lumière au-dessus de la porte quand on rentre, en automatique. On trouve ça dans les toilettes de restaurants un peu partout aujourd'hui. Vous avez des systèmes d'automatisme d'éclairage. Quand on a étudié un peu les groupes de travail qu'on a fait, on s'est aperçu qu'on avait un fort risque de chute nocturne chez des seniors parce qu'ils connaissent leur logement par cœur. Ils y habitent depuis 30-40 ans. Ils sont persuadés que ils peuvent y aller facilement sans même allumer la lumière. Et puis voilà. Et puis on a des médicaments pour dormir. On a besoin de faire son équilibre quand on se lève. Et là, on s'aperçoit que si on n'allume pas automatiquement la lumière, on a un risque de chute. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris, nous, ces solutions domotiques qui permettent très simplement d'allumer une lumière automatiquement. Et on les a installées, non plus au-dessus de la porte du garage ou de la porte d'entrée, mais dans la chambre, pour que quand la personne se lève, automatiquement la lumière s'allume. Voilà. Et donc, avec ça, dans les projets de déploiement qu'on a fait, on a réduit entre 30 et 40% les chutes nocturnes. Voilà, c'est du détournement d'usage.
C'est de l'adaptation à des besoins.
Oui, c'est simplement
de l'existence qui est intéressant.
Prendre le temps de comprendre les besoins et puis après, essayer de mettre en face un certain nombre de solutions, sachant qu'on est nous qu'un petit morceau de ce qu'il va falloir adapter chez soi. On parlait tout à l'heure de la cuisine, de la salle de bain, du mobilier, etc. Voilà. Mais je pense qu'on est dans cette logique-là où on cherche à répondre à des besoins et si on y répond correctement sur un niveau de prix acceptable et qui correspond à ce qu'on propose, il n'y a pas de problématique entre business et éthique. Voilà.
Monsieur Gauguelin, vous avez attendu sagement votre tour. Alors vous représentez, la FEAP. La FEAP sont des milliers d'établissements qui interviennent tout au long du parcours de la vie des gens. Il y a les soins, il y a les personnes âgées, il y a les personnes handicapées. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier vous aussi dans votre domaine d'activité des établissements à but non lucratif la meilleure qualité de prise en charge possible, donc la qualité, l'éthique, et puis la performance avec les meilleurs équipements possibles. Comment on fait dans vos établissements ?
Alors d'abord,
il faut que le micro marche. Bon, attendez, allez-y, réessayez.
Allô, ça marche ?
Là, il marche.
Ah, bravo. Oui, alors d'abord, je vous confirme que nous sommes représentants des acheteurs et on recherche effectivement l'effet waouh, si possible pas sur le prix, mais tant qu'à faire sur des innovations, des vraies innovations, qu'on va mettre à disposition donc de nos établissements et quelque part pour être finalement différent et avoir des critères différenciateurs parce que nous aussi on veut avoir des expériences ce qu'on appelle citoyens, usagers, patients réussis parce qu'aujourd'hui malheureusement on est dans un monde concurrentiel. Voilà. Alors la fédération regroupe effectivement 4200 établissements sur l'ensemble du territoire, ça fait beaucoup de monde. Dans ces établissements, nous accueillons évidemment des seniors, puisqu'on a des établissements sanitaires classiques, et puis on a à peu près 1000 EHPAD, et puis surtout on intervient beaucoup au domicile, donc qui est forcément un lieu, je dirais, d'attraction important sur ce sujet. Alors, ce qui caractérise nos établissements, c'est la vie. Donc cet acronyme signifie les valeurs, pour le V. Alors pourquoi ? Parce que historiquement, il faut bien voir que nous venons du monde, finalement, de l'accueil. Historiquement, on récupérait les gens dont personne ne voulait, y compris les seniors. Ensuite, il y avait le I, l'innovation, parce que dès lors qu'on accueillait les gens avec peu de moyens, il fallait se débrouiller pour que ça marche. Donc il fallait des solutions concrètes qui fonctionnent, et donc on a toujours été habitué à se débrouiller et donc à traiter de l'innovation. Et puis le E, c'est l'éthique. L'éthique est vraiment le troisième pilier de la fédération, parce que nous, on considère qu'on ne peut rien faire sans le consentement éclairé de notre citoyen usager patient. Et ça, c'est vraiment un principe de base. On ne peut absolument rien faire sans ça. Donc ça, c'est tout à fait important. Et si on veut faire tout ça, effectivement, il faut de l'innovation, il faut des nouveaux produits. Et donc, on est forcément en relation avec nos amis industriels. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on est effectivement dans un monde concurrentiel, puisque actuellement, le monde hospitalier, entre autres, vous savez, se regroupe avec les fameux groupements hospitaliers territoire. Mais pas que. Donc, aujourd'hui, si on veut rester, avoir une très bonne prise en charge, il faut être un petit peu au-devant des autres et il faut enchanter les gens qui viennent chez nous avec des expériences réussies et qui font que la famille, les aidants ont envie aussi de recommander nos établissements. Alors, ce qui fait que nous recommandons aujourd'hui et nous revendiquons la performance dans l'éthique. Ça, c'est un vrai sujet, parce que pour nous, finalement, l'innovation, elle doit être chez nous, mais doit être aussi, évidemment, chez nos partenaires industriels qui, on le sait bien, malheureusement, pas tous, on l'a bien compris, mais certains d'entre eux sont parfois quand même un petit peu enclins à augmenter leur marge, vous savez, voilà. Donc il s'agit d'équilibrer un petit peu tout ça, voilà. Alors, faut quand même dire aussi que, bien sûr, le senior aujourd'hui est un peu un citoyen comme un autre, on va dire ça comme ça, mais on sait quand même que des gens qui sont en situation de fragilité peuvent aussi être parfois en situation de crédulité. Donc il faut être particulièrement vigilant sur ces aspects-là, et nous, c'est vraiment un de nos chevaux de bataille, voilà. Donc pour nous, le fer de lance, c'est vraiment, il faut éclairer tout le monde, et il faut que les choses soient transparentes. Alors finalement, comment on fait ça? Eh bien, typiquement, quand il y a des solutions innovantes, ben, on les référence dans des portails de référencement de produits qui vont bien. C'est la raison pour laquelle la Fédération a soutenu dès le départ France Silver Eco, puisqu'on a le plaisir d'avoir notre président ici, avec le portail de référencement, et j'ai le plaisir d'être en charge de cet aspect en tant qu'administrateur, y compris sur l'innovation. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que ces produits, ben, il faut les proposer à nos adhérents. Donc nous, on a aussi un portail à nous de la Fédération via lequel on communique, et on fait savoir un petit peu que toutes ces choses existent. Et c'est pour nous extrêmement important. Puis après, on a une stratégie digitale, mais enfin, c'est du classique, hein, et donc on communique via les réseaux sociaux, voilà. Alors ça, c'est pour faire connaître, mais au-delà de ça, il faut s'approprier les solutions. Alors pour s'approprier les solutions, ben, on lance des appels d'offres classiques. Mais par contre, on met des clauses dedans qui sont un petit peu spécifiques. Je vais vous en citer quelques-unes. Parce que nous, nos besoins doivent respecter absolument l'éthique et la déontologie. Première chose, sur le travail des enfants. Ça paraît bête, hein, mais on ne veut pas d'entreprise qui ferait travailler des enfants. Non. Donc l'âge minimum du travail, vous voyez, au travail, ne peut en aucun cas être inférieur à 15 ans, quel que soit le type d'activité.
Donc il y a plein de produits venus de l'étranger pour fuser.
Alors parfois, soyons clairs, on n'est pas toujours capable réellement de le savoir, mais il y a des chartes et un certain nombre de choses. Hein. Bon, deuxième chose, l'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans, vous voyez. Donc tout ça dépend de la convention de l'Organisation internationale du travail. Deuxième chose, le travail forcé. On ne veut pas de société qui agirait dans un cadre de travail forcé. Non, ça non plus, vous voyez. Donc la rétention de papiers d'identité, il y a ça dans certains pays. Les employés qui ne peuvent pas quitter leur employeur, etc. Je vous le passe rapidement. Et puis les mauvais traitements aussi, idem. Ça, on n'en veut pas. Et donc de plus en plus, on introduit dans nos appels d'offres, nos adhérents le font, en fait, un certain nombre de critères.
Bien précis.
Tout à fait, qui sont très importants. Et puis dernière chose, qui respecte le développement durable. Et la dimension RSE, là, on n'aura pas le temps d'en débattre, mais aussi quelque chose d'important, y compris d'ailleurs pour les industriels eux-mêmes.
Alors, avant qu'on revienne avec vous, madame, et vous, messieurs, sur les critères, qu'on fasse un peu de pédagogie, qu'on essaie de cibler tous les critères qu'il faut bien appliquer pour répondre à la question de cette conférence, concilier business et éthique. Une question provocatrice, finalement, respecter l'éthique, ça coûte cher. Ça vous coûte pas trop cher dans vos établissements, comme ça, de vouloir respecter l'éthique, de ne pas faire venir des trucs de, je sais pas, de pays lointains en Chine, par exemple, ou ailleurs, dans lequel les enfants travaillent très tôt, où la pollution, on s'en fiche, l'environnement, c'est parce que ça vous coûterait moins cher d'avoir des produits qui marchent peut-être bien aussi, non? En période de crise, c'est peut-être le business qui compte avant l'éthique. Madame, messieurs, non? Non?
En tout cas, c'est la valeur, au final, qui est le plus important. Hein. C'est pas bon. Le prix.
Monsieur Vallée, on est en période, c'est pas facile pour les entreprises, en ce moment, vous n'allez pas me dire le contraire. On n'est pas tenté quand même d'aller...
On se faisait la réflexion... En se disant, mais pour répondre à ce cahier des charges, il y a un truc tout simple, déjà, c'est de fabriquer en France, parce que...
Oui, oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez dit, ouais. Bon. Fabriquer en France ou en Europe, ou au Sobodon.
On va se faire taxer de faire du protectionnisme à ouais. Travers des appels d'offres, mais bon. Voilà, moi, bon. Je sais pas, vous parliez de la crise, enfin, crise ou pas, je dis encore une fois, il faut être pragmatique, à partir du moment où vous avez des produits qui répondent à des besoins, et que ces produits-là...
Ça marche.
Ça marche.
Et ça se
voilà.
Vend, ça
voilà.
Se vend.
Puis, le senior, comme n'importe quel consommateur, il fera son tri. S'il a envie de quelque chose, il se le paiera. S'il se fait avoir, il se fera avoir une fois, pas deux fois. Comme tout le monde, je veux dire, c'est un consommateur comme les autres.
C'est voilà. Aussi ce que vous voyez dans vos enquêtes, dans vos études, Serge Guérin. Faut pas essayer d'avoir le consommateur, de le tromper, le prendre pour un abruti. Voilà.
Faut être honnête, ça marche aussi parfois de prendre les gens pour des abrutis. Oui. Il suffit de voir parfois les résultats électoraux, enfin, il y a plein de choses. C'est pas si compliqué
là,
que ça.
C'est un autre,
mais donc ça marche aussi. Mais cela dit, le senior a une caractéristique par rapport à d'autres, c'est quand il a 70 ans, généralement ça fait 70 ans qu'il consomme. Oui. Donc il a une certaine habitude de consommateur. Donc du coup, il a été éduqué,
oui,
formé.
Mais au-delà de cet âge, je vous pousse dans mon retranchement. Oui. 80, 85 ans, alors, dépendant, on perd un petit peu ses facultés.
Il peut y avoir en effet des gens qui peuvent être plus fragiles. Alors, d'abord, c'est aussi une question, d'abord pas tous, d'une part. Hein, il y en a qui ont 85 ans et qui vont très bien et qui ont toute leur tête. Et on en connaît tous de 20 ans qui n'ont pas toute leur tête. Hein, donc c'est pas qu'une question d'âge, même si ça peut jouer.
Bon, attention, ensuite, il y a des jeunes dans la salle, monsieur Guérin, qui ont toute leur... Félicitations.
Elles le savent aussi.
Elles le savent, d'accord.
Ah, et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, dans certains cas, à un certain âge, les gens peuvent être plus fragiles.
Voilà.
Et donc
là,
on
peut y aller pour faire
du business. Il y a plus de risques, et d'où l'importance aussi, qui est un minimum de normes par rapport à ça, et puis qui est aussi un entourage, et que par exemple, les enfants se mobilisent pour aider, pour faire dans les choix et tout ça. Il y a quand même des médias aussi qui conseillent. Enfin voilà, il y a un certain nombre de structures autour, mais bien sûr, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Il y a aussi des gens qui se font avoir. Il y a aussi des gens qui ont des toutes petites retraites et qui se retrouvent embarqués dans des emprunts sur 20 ans alors qu'ils ont 75 ans. Hein, voilà. Donc tout ça existe aussi. On n'est pas dans un monde merveilleux, mais n'empêche que il y a aussi des réalités, des cadres et tout ça. Et puis, pour finir aussi sur la question de quand on prend des produits qui ont été faits en France, après tout, si on veut que les enfants aient les moyens aussi d'aider leurs parents, y compris à financer une maison de retraite, il faut aussi que les enfants ils aient du boulot. C'est aussi bête que ça. Donc, d'une certaine façon, il y a tout intérêt aussi à produire en France, parce que c'est aussi une des manières de contribuer à maintenir de l'emploi en France. S'il n'y a pas d'emploi, ça va être plus difficile pour aider, pour financer, et ainsi de suite. Donc là, on voit bien qu'il y a un cercle relativement vertueux qui peut s'organiser. Il y a de la même manière, d'ailleurs, que dans énormément de maisons de retraite, on travaille beaucoup aujourd'hui sur les circuits courts, sur l'idée de, et si on prenait des produits, par exemple, d'alimentation, qui sont fabriqués, produits...
Localement.
Localement. Voilà. Oui. Tout ça a un intérêt, parce qu'en plus, quand c'est plus court, ça devient aussi souvent moins cher. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la qualité sans nécessairement que ça augmente tant que ça les prix. Et même parfois, comme la qualité fait que les produits durent plus longtemps, il arrive aussi que ce soit plus rentable de prendre des produits de qualité parce que justement, ils vont durer plus longtemps. Donc là, on voit qu'il y a une économie assez vertueuse qui peut... Encore une fois, c'est pas le monde de oui, ça marche pas toujours comme ça. Ça le serait. Mais il y a quand même un certain nombre de cas où ça va dans ce sens-là.
Une économie vertueuse, monsieur Broussy, vous y reconnaissez, la silver economy, la filière de la silver economy, ça se veut une économie vertueuse. On peut éliminer les canards boiteux ou les gens qui sont là en n'ayant pas trop en tête ces impératifs de qualité et d'éthique.
Mais vous moi, y veillez déjà depuis quelques années, ce filtre a déjà montré son efficacité. D'abord parce que vous avez... des événements comme celui-là. Vous êtes une start-up, vous proposez une prestation, vous testez ce que vous vendez dans un salon comme celui-ci où passent des centaines et des centaines de personnes. Vous êtes déjà dans une forme de reconnaissance.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc tout le monde ne peut pas venir ici. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, et c'est le sentiment que j'avais, c'est que y compris... Le niveau moyen de professionnalisme de ceux qui exposent ici a déjà, on voit à l'œil nu que ça a évolué depuis 3 ans. Mmh. Il y a 3 ou 4 ans, enfin 3 ans, la première édition de Silver Expo, il y avait un peu des professeurs d'Imbus, qui ne sont pas forcément malhonnêtes.
Oui.
Mais enfin bon, d'une manière générale, le secteur s'essaime naturellement. Je ne suis pas un libéral à tout craint, mais enfin quand même, une des vertus du marché, c'est qu'à un moment donné, mauvais s'éteignent quand même. Bon, surtout quand ils n'ont rien à proposer. Donc ça se voit assez vite à l'œil nu. Et puis, il y a quand même, une fois de plus, une économie qui est en train de se construire dans un environnement où on parle de plus en plus, par exemple, d'économie collaborative. C'est-à-dire une économie où les consommateurs veulent prendre le pouvoir aussi. Et d'une certaine manière, je pense que la silver economy est un bon test, un bon rat de laboratoire pour tester ces nouvelles formes d'économie. C'est pas un hasard si la silver economy est un terrain privilégié de cette économie collaborative.
Ça peut être le premier critère pour concilier business et éthique pour une entreprise ou une start-up que d'intégrer, par exemple.
D'abord, je vous aime bien, mais vous en êtes à peu près au 15e usage du mot business. Bon, je comprends bien, vous faites
c'est
votre boulot.
C'est le thème de la conférence, tout ça.
Vous faites votre boulot.
Volontairement.
Bon, de journaliste,
un peu pour nous. Affaires, si vous
mais
voulez.
Mais ce n'est pas parce qu'on va dire 15 fois business
que va peser sur ce secteur-là une forme de chape de plomb qu'on n'a pas... je ne sais pas pourquoi. Plutôt, je sais pourquoi. Bon. Mais Eldorado, business, etc. On peut continuer à faire ça. Mais on dévalorise tout le monde en faisant ça. On dévalorise ceux qui, dans ce secteur, aujourd'hui, entre 25 et 30 ans, et sont en train de créer leur entreprise pour améliorer le sort quotidien des personnes âgées. C'est quand même formidable, positivement. Au lieu de dire le business, on dirait un mauvais numéro de capital. Bon. L'émission, hein, je parle. Bon.
Donc, je dirais aux organisateurs de la conférence de plus mettre ce mot-là.
Non, mais je pense sincèrement que c'est contre-productif. Évidemment qu'une entreprise... dans ce secteur-là, comme dans n'importe quel autre secteur, ne se crée pas pour perdre de l'argent. Ce n'est pas le but de l'opération. Bon. Mais moi, je suis frappé de voir qu'on n'arrête pas de parler d'intergénération. À France Silver Eco, on a toutes les semaines des sollicitations de jeunes entre 20 et 30 ans, entre 20 et 30 ans, qui sortent d'école de commerce, qui sortent d'école d'ingénieur, qui sortent de nulle part d'ailleurs, bon, et qui ont l'idée de créer une entreprise dans ce secteur-là. Évidemment que sur... 500 jeunes qui créent leur entreprise, à la fin, on en retrouvera peut-être que 100. Et peut-être que dans les 100, il y a Bill Gates. Voilà. Mais voilà, moi, je trouve ça, au contraire, formidable. Que, si vous avez à choisir la carrière que vous voulez embrasser et l'entreprise, le secteur d'activité que vous voulez privilégier, bon... consacrer sa vie, y compris à gagner de l'argent en aidant les gens à mieux vieillir, il y a des métiers un peu plus sots quand même.
Absolument.
Bon, voilà, on est d'accord. Donc, voilà.
C'est peut-être ce que va nous dire Mme Hélène.
Je crois vraiment que... Bon, et puis, une fois de plus, les filtres sont mis. Ils sont mis parce qu'entre nous, on commence à se scruter les uns les autres. Mm-hmm. Quand il y a un mauvais, on commence à le savoir. Il y a, une fois de plus, le filtre de l'achat public. Mm-hmm. Quand un conseil départemental... Quand une mutuelle, quand un gros hôpital, un CHU vont devoir faire commande publique, il va y avoir quand même des filtres pour qu'ils ne vendent pas n'importe quoi. Et donc, on n'est pas là une fois plus dans la vente d'encyclopédie universaliste en tapant à la porte des gens. Il y a quand même des filtres. Bon. Et moi, je souhaite d'ailleurs que ces filtres-là... Il y a un deuxième filtre que Serge disait. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les seniors veulent maîtriser leur destin. Et que vont arriver à l'âge de la consommation de produits et biens de Silver Economy la génération des 68 arts, qui disaient qu'ils ne voulaient que personne ne choisisse leur place. Et là, on est dans une génération qui va de plus en plus être une génération de consuméristes, une génération qui va regarder, qui va se renseigner, et on le voit bien aujourd'hui déjà. Donc, vous voyez, le filtre des institutions, le filtre de retraités qui vont être plus... à même de maîtriser leur destin. Tout ça, quand même, nous fait toute une série de ceintures de sécurité qui nous permettent de ne pas prendre le mur tout de suite.
Madame Hélène, vous vouliez...
Oui, moi, je vais faire mon bon élève, parce que vous nous avez posé la question, donc, en clôture, quel serait un truc pour faire du business avec les seniors.
Oui, voilà, je voudrais qu'on passe en vue les critères, même carrément, qu'on puisse les noter.
Oui, moi, je voudrais
juste... Il y a parmi nous des jeunes, peut-être, de futurs entrepreneurs.
Je voudrais faire un petit truc, et vous m'avez posé la question, c'est quoi la culture du design thinking? Donc, c'est très difficile de répondre à cette question, c'est quoi la culture du design thinking? Parce que c'est un peu comme si, je pourrais en parler des heures, des années, c'est comme si on disait, c'est quoi la culture française? Donc comme c'est une culture, c'est difficile. Il y a plein de petits points de repère qui sont en fait difficiles à capter. Mais je voulais vous en donner un, en fait, un truc qui mélange à la fois en fait la découverte de la culture du design thinking, qui permet en fait de faire du business avec les seniors. Nous, on utilise finalement une technique qui s'appelle en fait d'aller en source d'inspiration et en recherche ethnographique. On essaye de trouver en fait toujours les utilisateurs extrêmes. Extrêmes dans leur fréquence, extrêmes dans leurs usages, extrêmes par rapport à leurs contraintes, extrêmes par rapport en fait à leurs exigences en termes de rêves, de désirs, d'attentes. Et c'est vrai qu'on le voit en fait à chaque fois quand on prend en fait un projet les seniors représentent en fait souvent ces utilisateurs extrêmes parce qu'ils sont exigeants. Et parce que finalement en prêtant l'oreille à leur petite fragilité, on se retrouve sur des sources d'inspiration qui sont fondamentales, et on l'a dit, on l'a redit, on l'a écrit dans ce livre avec Florence Mathieu, le design thinking par la pratique. finalement, ce qui est pour eux une exigence, ce qui est pour eux une nécessité, est finalement un confort pour tous. Et on voit que finalement, ils sont source d'inspiration d'une façon extraordinaire, puisque si je finis en fait ma petite histoire du meuble de salle de bain, en fait, on s'est rendu compte à la fin que cette position assise, elle était pour tout à chacun extrêmement confortable, qu'on pouvait transformer ce meuble de salle de bain en rêve d'une coiffeuse des temps modernes, qu'on pouvait en fait finalement asseoir l'enfant, on pouvait en fait langer un bébé et avoir cette table amovible sur le plan de travail qui permet à la fois de mieux se maquiller, de mieux se raser et de mieux s'occuper en fait de ses bébés. Et ça a vraiment parfaitement illustré ce courant mondial auquel on appartient sur les seniors qui s'appelle Design for All. C'est-à-dire que finalement, le senior, dans son exigence extrême, puisque bon, bah voilà, c'est un consommateur aguerri, comme disait Serge, et par ses débuts de fragilité, dans cette observation, et en allant jusqu'au bout de notre responsabilité en tant qu'innovateur, de vraiment faire des belles expériences jusqu'au bout, eh ben, ça nous permet d'avoir une magnifique source d'inspiration pour le mainstream. Et finalement, ce sont des produits après qui sont très très bien conçus pour le grand public et qui s'élargissent là où on voit. Donc, ce qui est une nécessité pour le senior à un moment donné est finalement un confort pour tous. Et pour nous, c'est une grande source d'inspiration dans la conception des produits et des services. Et là, en ce moment, on fait quelque chose en expérience culinaire pour Nestlé, pour les jeunes, et on reprend un panel d'utilisateurs extrêmes que sont nos chers seniors.
Donc, si je résume un peu ce que vous avez dit, le premier critère pour réussir, donc pour concilier, c'est bon, la réussite de l'entreprise, je dis plus business, hein, réussite de l'entreprise, voilà. Et puis, l'éthique, la qualité, c'est bien déjà partir des besoins de l'usager et pas d'un effet de mode. Parce qu'on a l'impression souvent, on
j'ai
voit
envie
dans
de
les
dire,
médias
plutôt que de dire partir
c'est la mode
des...
de s'intéresser aux seniors, la silver economy, les cheveux
ouais,
gris,
j'ai envie de dire
super.
Partir des besoins, c'est un peu classique. Moi, j'ai envie de dire, besoin c'est plutôt extrême. Capter l'expérience avec empathie et respect.
Vous êtes d'accord, messieurs, vous qui représentez des établissements à but non lucratif et vous, une entreprise leader dans la téléassistance, l'appareillage électrique, vraiment être au plus près des besoins, c'est la première chose à retenir des usagers et non pas chercher à se faire plaisir ou à suivre un effet de mode.
Bah, je ne sais pas, si on cherche, si un patron d'entreprise cherche à se faire plaisir avant de faire plaisir à ses clients, je pense qu'il ne va pas aller loin. Quoi. Mmh. Donc pour moi, non, ça me paraît assez clair, oui.
Mais innover pour innover, par exemple. On est sur une vague d'innovation technologique.
On l'a dit, il y a plein de start-up qui étaient voilà. Là il y a 5 ans, qui ne sont plus là. Bah,
ça,
ils ont innové pour innover, puis ils n'ont pas trouvé leur marché, ils n'ont pas trouvé leur client.
Ça
ne
fonctionnera pas forcément.
Dans tous les domaines, encore une fois, il n'y a rien de spécifique à la silver economy, si ce n'est tout ce qui a été dit quand même jusque-là. Mais sur le plan de la consommation, de la conception d'un produit ou d'un service, c'est un marché. Donc pour servir un marché, ben voilà, il faut l'étudier, il faut l'analyser, il faut le comprendre. Et puis, il faut apporter une offre adaptée. Voilà, et le marché fera le tri. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas éthiques, s'il y a des gens qui ne font pas de la qualité, s'il y a des gens... Mmh. Eh ben, je pense que, comme tout consommateur, le senior, il fera son tri. Et puis ces boîtes-là, elles disparaîtront.
Dans vos établissements, monsieur Gauguelin, quelle position on adopte? Est-ce qu'on pousse pas trop le jeu des innovations techniques pour séduire, pour attirer des gens? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? J'aimerais bien vous donner des exemples de ce qu'on va trouver comme, je sais pas, comme équipement, comme prestation, qui répondent pile poil à cette nécessité de l'éthique, de la qualité, et puis aussi de faire en sorte que les établissements fonctionnent et équilibrent leurs comptes. Quoi.
Bah, de toute façon, vous l'avez compris, finalement, tout ça, une transaction, c'est finalement un équilibre. Et si on veut que tout le monde soit content et que les startups ne disparaissent pas au fur et à mesure qu'elles apparaissent, en fait, quelque part, ils ont besoin d'avoir un business model qui marche. Pas simplement la bonne idée, mais il faut que le business model marche. Donc, il y aura du business si, quelque part, il y a des ventes. Et pour qu'il y ait des ventes, ça veut dire que, quelque part, le produit répond réellement aux besoins. C'est pas ça a l'air de répondre aux besoins, puis au final, on se rend compte qu'il y a trop d'inconvénients. Et donc, pour nous, ceci, c'est un inconvénient majeur qui se contourne en faisant ce qu'on appelle de la co-création. C'est-à-dire que si, quelque part, au départ de la création du produit, vous mettez ensemble des utilisateurs qui vont vous dire « mon vrai besoin, c'est ça ». Mon besoin d'interface utilisateur, c'est ça. Je vais utiliser le produit de telle façon. Que vous mettez ensuite des équipes pluridisciplinaires avec des sociologues, des ergonomes, enfin plein de gens. Que vous mettez un industriel qui va bien et puis tout un ensemble de personnes concernées. Au final, on atteint ce souci de transparence qui est absolument nécessaire. C'est l'une des l'un des pivots, on va dire, de l'éthique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de respect, de confiance, si quelque part il n'y a pas cette transparence. Et en créant comme ceci, ensemble, ces produits, nous, on les crée dans ce qu'on appelle un living lab, un laboratoire vivant, qui permet de faire maturer des bonnes idées et des produits jusqu'à leur marché. Et donc, à la Fédération, ben, nous identifions des industriels, des établissements qui travaillent avec des industriels pour pouvoir faire émerger, je dirais, ces solutions.
Les living labs, donc c'est ça.
Oui, les laboratoires vivants, les living labs, absolument.
Entre l'usager, l'industriel qui a...
C'est une co-conception, c'est-à-dire que l'industriel, parfois, a une super idée, puis dit, je vais mettre ça sur le marché, puis après, on se rend compte qu'il y a plein d'inconvénients, et donc le business model ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de vente, alors que l'idée était bonne. Alors que si, dès le départ, les utilisateurs sont à bord, ils vont dire, c'est une très bonne idée, mais moi, je vais pas l'utiliser comme ça. Et comme je ne vais pas l'utiliser comme ça, je vous suggère de faire ça. Maintenant, ça me convient, et donc je veux bien l'acheter à tel prix. Vous voyez ? Et donc, progressivement, il y a un raffinage des idées et des usages qui fait qu'on obtient quelque chose de mature, apte à être mis sur le marché.
Et ça, c'est une démarche qui est dans de nombreux établissements à la
Qui est dans quelques établissements. Oui. Il faut avoir quand même, soyons clairs, un certain degré de maturité pour faire ça, bien évidemment. Mais c'est une démarche qui est mondiale, pour le coup.
Monsieur Broussy, vous vouliez acheter quelque chose ?
Il y a une idée qui me vient à l'esprit en écoutant, c'est que il y a le B2C, on vend, et c'est un peu le sens de vos questions depuis tout à l'heure, comme si le client final était un individu. Mais on voit de plus en plus se développer, je le dis à l'attention de ceux qui ici font métier de créer, gérer, essayer de développer des entreprises dans ce secteur-là, c'est que de plus en plus, des petites entreprises vont trouver leur bonheur, non pas évidemment en s'adressant à Madame Dupont, elles vont souvent trouver leur bonheur en pensant à Madame Dupont, mais en s'adressant à d'autres intermédiaires. Je vous prends deux exemples. Une start-up de mon département, le Val d'Oise, vient... alors je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'ils ont vendu leur savoir-faire, est-ce que je ne sais pas comment concrètement ça se passe, mais cette tablette numérique... ce gars a dealé avec la Poste, et la Poste désormais, dans son offre globale, utilise ce savoir-faire. Donc la Poste, elle, par contre, des Madame Durand, elle en fréquente des millions par jour. Et donc voilà la réussite d'une start-up, d'une petite entreprise qui a développé une tablette numérique qui fait 1 plus 1 égale 2, bon, peu importe. La Poste a dit, ah, ça c'est intéressant. Ça peut intéresser Madame Durand, et donc je vais prendre. Je vais pas voler, hein, je vais prendre et je vais m'arranger. Et donc c'est la Poste qui va diffuser, peut-être à demain, des milliers, des milliers, des milliers de foyers, un service qui avait été inventé par un type qui, tout seul, n'y serait pas arrivé. Ça peut valoir aussi pour d'autres exemples. Je sais que il y a à un moment donné une autre start-up, je pense à deux d'ailleurs, qui doivent être présentes dans les parages, qui ont fait un moyen de communication pour que, dans les EHPAD, eh bien, les petits-enfants puissent prendre une photo, puissent passer un message, et par l'intermédiaire de l'EHPAD, ça atterrit dans la chambre de la personne âgée, qui, toutes les semaines, se fait livrer, un petit livret avec la photo des enfants, etc. Bon. On se demande d'ailleurs pourquoi les EHPAD eux-mêmes n'y ont pas pensé avant. Bon, mais voilà, c'est ça qui est bien dans la Silver Economics, c'est le royaume de l'idée. Il faut avoir une idée. Voilà, et c'est ce que je disais, c'est pas seulement une nouvelle technologie. Le type qui un jour dit, je vais faire une interface, et je vais permettre grâce à cette interface que, là, par exemple, je photographie Serge Guérin.
Oui.
J'envoie ça à l'EHPAD où est hébergé l'arrière-grand-mère de Serge Guérin, parce qu'il est très jeune. Eh bien, l'arrière-grand-mère de Serge Guérin va voir « Oh, le petit Serge est en coloc à Silver Expo ». Donc, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Mais le fait est que deux start-up ont développé ce modèle-là et que j'ai cru comprendre la semaine dernière, en discutant avec eux, que Corian, 300 établissements en France, venait de tester cette solution sur 100-150 établissements. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Ce n'est pas seulement l'usager final qui est la cible des innovateurs, mais c'est qu'il y a des intermédiaires. Et que c'est ça la silver economy, c'est que la start-up qui a inventé une bonne idée mais qui n'a pas les moyens de déploiement va trouver l'outil de déploiement. Et là-dedans, tout le monde est content. Le client final, parce qu'il va avoir sa prestation. L'organisme intermédiaire, en l'occurrence Corian ou La Poste, qui là vont apporter un service supplémentaire. Et puis, celui qui a inventé la prestation, bah, qui va probablement grossir. Hein, parce que, bon. Donc je voulais vraiment attirer l'attention des entrepreneurs potentiels qui sont dans cette salle, c'est que comment dire, que cette forme de développement des innovations est aussi quelque chose de particulièrement prégnant aujourd'hui en matière de silver economy.
Alors à ce sujet, je vous signale, mesdames et messieurs, qu'il y aura une conférence demain ou après-demain sur l'alliance et l'intérêt qu'il y a pour des startups de travailler avec des grands groupes pour développer des innovations au service des seniors, au service des personnes âgées. On a évoqué quelques critères, hein, pour répondre à cette question de notre conférence. Vous avez parlé aussi des clauses dans les appels d'offres insérés, hein, pour être sûr de... C'est vous qui en avez parlé, Monsieur Gauguelin, pour qu'on ait, on ait des produits qui soient des produits éco-responsables, j'allais dire. Est-ce qu'on a... Alors, on ne veut pas de produits qui viennent de pays lointains où on ne respecte pas ces choses-là. Est-ce qu'on a quand même des leçons à tirer de l'étranger? Est-ce que les uns et les autres, vous êtes penchés, je ne sais pas, M. Guérin, Mme Hélène, sur ce qui se passe à l'étranger? Comment ils font? Parce qu'eux aussi, dans la plupart des pays industrialisés, on a une population qui vieillit. Hein, il n'y a pas qu'en France. Comment on répond à cette question? Comment on arrive à leur proposer des services qui les satisfont, tout en permettant aux entreprises qui les proposent de développer? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus? Puis M. Guérin aussi veut. Allez-y, madame. Et puis,
je pense que oui, c'est vraiment plus une question pour un sociologue, parce que c'est vraiment le rapport qu'une société a par rapport en fait à la vieillesse, à la mort, au rapport en fait à ses aînés, à ses anciens. Donc c'est sûr que donc, nous, on travaille dans un réseau d'une trentaine d'universités. On a un gros programme qui s'appelle ME310 Design Innovation, qui est en collaboration avec Stanford et 23 universités dans le monde. Ces universités sont sur tous les continents. On travaille principalement avec la D-School allemande, finlandaise, japonaise et américaine, mais il y en a un peu partout. Et c'est vrai, et on a des projets qui sont seniors et donc qui sont à la fois dans la recherche ethnographique, à la fois dans l'inspiration et après dans le prototypage et dans l'adaptation au contexte culturel. On voit bien que la synthèse créative en fonction de valeurs et de d'habitudes et de culture en fait locale est très très différente par rapport en fait à ce public. Nous on le voit en permanence dans ce réseau.
Il y a des pays qui sont très en avance par rapport à nous. Il y a des pays dont il faudrait copier de votre expérience.
Oui, après, c'est vrai que on voit aussi une très grosse différence en fonction des niveaux en fait sociaux, enfin de vraiment du rapport à la richesse. Donc si vous êtes en fait un senior extrêmement riche, vous êtes extrêmement international. Vous baladez un petit peu partout, vous avez en fait 4 maisons sur 4 continents. Il y a cette mobilité en fait qui va être internationale, mais on retrouve par exemple aussi cette mobilité à un niveau en fait du pays. Donc j'évite en fait de, on peut pas faire vraiment de typologie par culture ou par on voit qu'il y a des transversalités en fonction de certaines tranches et de typologies et de scénarios de vie liés en fait aux seniors, et on voit des choses qui sont très très culturelles, très locaux. Là en ce moment on travaille sur un projet de sol connecté sur les maisons de retraite avec une entreprise qui s'appelle Tarket, et on est en collaboration avec le Kyoto Design Lab, donc à Kyoto, au Japon. Et c'est vrai que ce qu'on a été observé de cette cellule familiale intergénérationnelle dans des espaces assez exigus, elle existe vraiment au Japon, et l'organisation n'est absolument pas identique de l'indépendance qu'on peut avoir de nos seniors en France. Et c'est pas du tout les mêmes rapports et les mêmes organisations au sein en fait de la famille.
Monsieur Guérin, vous vous promenez à l'étranger, lui. Je suis sûr qu'un sociologue comme vous va voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous en avez tiré des leçons aussi?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a d'abord en effet la question culturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même substrat culturel, et donc on n'a pas tous le même rapport à l'âge, par exemple, le même rapport à l'extérieur. Ne serait-ce que si on reste en Europe, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, il y a des frontières extrêmement fortes. Je prends un exemple tout bête, il y a quelques années, une marque de cosmétiques fait pour la première fois, prend un mannequin qui avait dépassé 17 ans et demi, et ce mannequin avait quelques rides et quelques cheveux blancs. Dans les pays du Nord, aucun problème. dans les pays du Sud, ils ont arrêté la campagne. Parce que simplement, les gens trouvaient que c'était inadmissible de montrer des gens avec les cheveux blancs. Voilà. Donc les rapports sociaux ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a la question du développement économique. Si le pays est pauvre, eh bien, il a des moyens pauvres, y compris pour les plus âgés. Et souvent, les solidarités familiales sont l'élément majeur. Si le pays a développé un état-providence, eh bien, il y a une habitude qui s'est prise, c'est les pays nordiques par exemple, où il va y avoir une prise en soins plus importante. Mais on voit bien aujourd'hui, la crise venant, la réduction de la capacité de l'État et ainsi de suite, où il y a un retour aussi à la famille, où les familles deviennent plus présentes dans un certain nombre de cas. Donc on voit bien que c'est aussi en fonction de l'état de développement culturel, mais aussi économique. Puis je prends un autre exemple, la Chine par exemple. La Chine s'intéresse beaucoup, enfin, la Chine, ils ont fait un choix... être compréhensible sur plein d'éléments, hein, de l'enfant unique, mais l'enfant unique ça veut dire souvent un garçon. Il y a quand même 400 millions de femmes qui manquent, qui ont été, pour être très clair, qui ont disparu pour être gentil à la naissance, et du coup il y a beaucoup de familles avec l'enfant unique où l'habitude de s'occuper des plus âgés a totalement disparu et où donc il y a des difficultés. Et donc par exemple ils demandent à des groupes de maisons de retraite français de monter des projets de maisons de retraite en Chine. Alors évidemment ça sera pour les Chinois qui ont quelques moyens. Hein, ça ne va pas être pour tout le monde. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des différences très fortes selon les états de culture et les états de développement. Et que, bien sûr qu'il y a des exemples à reprendre, il y a des choses comme ça, mais on ne sera jamais les Suédois ni les Finlandais. Donc il faudra
mais
quand
on,
même
on peut
qu'on,
donner des
qu'on trouve des choses.
C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On peut exporter des savoir-faire qui sont développés, notamment grâce à des écosystèmes comme la filière Silver Economy. On peut les proposer ailleurs, on est plutôt bien classé au plan mondial. On
oui,
sait concilier business et éthique, pour revenir à notre
point. On a des savoir-faire. Alors, le savoir-faire principal, ça a été le savoir-faire japonais, qui, simplement parce que le vieillissement s'est accéléré beaucoup plus rapidement, entre 1945 et 1995, les plus de 65 ans sont passés de 4% à 20%. Donc, bien avant nous. Et donc, ils ont été face à cette situation. En plus, eux, comme vous le savez, c'est une île. Et par ailleurs, pour des choix culturels là aussi, ils n'ont pas du tout fait le pari de l'immigration. Et donc, voilà. Et par ailleurs, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Donc tout ça a fait
Madame
que,
ils
ont fait des choix différents. Sous contrôle de Florence Mathieu, qui est vraiment plus expert que moi sur dès qu'on devient en fait très spécifique, je pense que le besoin par contre universel transculturel lié aux seniors, c'est de le maintien à domicile.
Oui.
C'est-à-dire que globalement, il y a des solutions d'aller dans des établissements en fait spécialisés et évidemment innovants, éthiques et c'est une solution, mais le besoin universel, si vous voulez, intrinsèque à l'individu, c'est quand même de rester là où il a vécu le plus longtemps possible dans des conditions d'ajouter en fait des vies aux années, comme on dit, donc dans des conditions en fait de confort et d'autonomie. Et ça on le voit au niveau transculturel. Alors certains en fait cultures par rapport à leur niveau de richesse et aussi leur ingéniosité, mais on voit quand même en fait vraiment ce besoin universel
du maintien
à domicile.
Donc c'est dans cette voie qu'il faut aller pour réussir.
Je serais peut-être un peu plus nuancé. D'abord
oui.
La notion de besoin elle se discute beaucoup. La notion de on n'est pas tous pareils est aussi déjà culturellement moi je m'interdis le terme maintien à domicile. Accompagnement, soutien. D'accord, mais je ne maintiens pas les gens sous l'eau. Donc déjà, rien que ça, c'est dans les mots qu'il y a le début de l'attitude. Mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde, disait mon vieux camarade Camus, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est aussi pas rien. Il y a des pays où on maintient parce qu'on pense que c'est moins cher pour la collectivité. Or, parfois, je rappelle que la vie à domicile, elle est moins éthique et elle est plus onéreuse. Quand vous avez 8 personnes différentes tous les jours qui ont votre code, de chez vous, vous n'êtes plus du tout à votre domicile. Et parfois, ces personnes, elles préfèrent vivre dans des lieux collectifs où il y a un minimum de sécurisation, tout ça. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être beaucoup plus nuancé et qu'il y a des pays, il y a des cultures où on a fait plutôt le pari du collectif parce que même on s'est aperçu que parfois, c'était mieux pour les gens et en plus, c'était moins cher. Donc là-dessus, je serais beaucoup plus prudent que dire tout le monde veut rester chez soi. Bien sûr, quand on fait le sondage, les 18-24 ans, est-ce que vous voulez aller en maison de retraite ? C'est incroyable, 0% des 18-24 ans veulent aller vivre en maison de retraite. Sauf parfois pour y travailler. Bien sûr, mais ça dépend de votre situation. Il y a des gens à des âges relativement jeunes qui disent « Moi, je préfère être dans un lieu collectif parce que je me sens plus en sécurité, parce que je vois peut-être d'autres personnes. » Il est en train de se développer en France comme dans d'autres pays des structures, je dirais, hybrides entre le chez-soi et la maison de retraite. Il y a de l'habitat partagé, il y a de l'habitat regroupé, il y a des systèmes développés par le monde HLM autour d'habitat intergénérationnel. Donc là aussi, dans l'habitat, et on dit bien habitat et pas logement, parce qu'habitat, c'est le logement et puis tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on habite un chez-soi, mais il y a aussi les parties communes et puis il y a aussi l'environnement. Si vous êtes un chez-vous extraordinaire, mais l'ascenseur ne marche pas, bah vous ne sortez jamais. C'est clair. Si jamais vous avez l'impression à l'extérieur c'est Beyrouth, vous ne sortez pas non plus. Donc il faut avoir une vision, je pense.
Madame
Hélène,
vous avez lancé un vrai débat, mais ce ne sera pas aujourd'hui. On en fera un prochain.
Oui, c'est bien, j'ai appuyé sur un bouton là. Et je fais mon mea culpa, donc je ne dirai plus jamais en fait le maintien à domicile, je dirai le besoin intrinsèque de rester chez soi.
Bien, madame, messieurs, on arrive à la fin de cette conférence. Je voudrais vous demander de suivre cette règle du jeu. Je voudrais que chacun d'entre vous essaie de définir son message essentiel, son conseil essentiel pour répondre à cette question. Comment concilier éthique et business? Pardon de nouveau, monsieur Broussy, pour ce mot business. Je vous promets, je ne le dirai plus, je sors de la salle, je l'oublie, je le raille de mon vocabulaire, mais ce n'est pas moi qui l'ai imposé. Mais bon, on le garde juste pour la conclusion. Votre message à chacun, votre conseil essentiel de votre point de vue de chef d'entreprise, de discours, établissement, etc., sociologue et responsable de Silver Eco.
Bon, on commence par là?
Ah ben, on commence par vous, oui.
Du bon sens paysan.
Le bon sens paysan, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben...
C'est...
Non mais...
Limoges?
Ouais, c'est Limoges.
C'est Limoges, oui.
Non mais enfin, encore une fois, moi j'ai pas de problème avec la conciliation... du business et de l'éthique, voilà.
Pourvu qu'on respecte.
Il n'y a pas d'éthique, il n'y aura pas de business. Et puis voilà. Je pense que quand on voit Silver Economy Expo, si on enlevait le mot économie qui peut représenter ce côté business, il y aurait moins d'innovation dans ce salon, qui nous profiteront à tous demain. Voilà. Donc à un moment, l'économie, ça fait vivre aussi des nouveaux produits, des nouveaux services, de l'innovation. Et c'est pour le confort et le bien-être de tout le monde.
Voilà. Donc pour réussir, du bon sens. On est d'accord? C'est les mots qu'on retient. Madame Hélène, qu'est-ce que vous proposez comme message clé?
Créer des expériences merveilleuses. Créer ce fameux waouh.
Le waouh.
Quand on voit un nouveau produit, un nouveau service.
Waouh. D'accord. Waouh. Voilà. Le bon sens. Waouh. Monsieur Gauguin, vous dites quoi, vous? Youpi, ou ah,
un peu tout ça. En fait, je pense qu'il faut travailler à des expériences co-créées, réussies.
Co-création.
Oui, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que l'amertume, vous savez, de la mauvaise qualité d'un produit ou d'un mauvais service, dure longtemps, longtemps après que la saveur sucrée du prix le plus bas ait été oubliée. C'est pas chinois, mais ça pourrait l'être.
Ça pourrait l'être. Bon, monsieur Guérin, le sociologue, qu'est-ce qu'il dit?
Peut-être un des mots majeurs, c'est peut-être celui d'écoute. C'est-à-dire, on a tous nos a priori, et donc c'est tout simplement, ou empathie, se mettre à la place d'eux. Et donc, comment, si je suis à la place de la personne, de quoi j'ai besoin, comment je vais l'utiliser, ainsi de suite, et écouter la personne, parce que souvent, elle a une partie de la réponse dans son expérience à elle. Donc voilà, donc ça serait écoute, empathie, expérience.
Monsieur Broussy, le mot de la fin.
Moi, je pense que la question de l'éthique, elle est essentielle, évidemment, mais elle n'est pas propre au secteur de la silver economy, où on aurait pu faire une conférence sur business, éthique et industrie de la défense. Vous voyez, il y aurait eu du grain à moudre. Bon. Donc, je ne pense pas que l'équilibre... Enfin, les gens qui ont décidé, une fois de plus, d'être dans ce secteur-là, c'est que, pour beaucoup, ils ont une appétence à la relation sociale, à la relation humaine. Ça ne me paraît pas être les agents les plus dangereux dans notre société en matière de risque éthique. Quand même, j'insiste sur ce que je disais au début, par contre, les problèmes éthiques vont se poser à nous tous avec les progrès scientifiques que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vous conseille, parce que je suis en plein dedans, en attendant la sortie du prochain livre de Serge Guérin, on est obligé de se consoler avec des gens beaucoup moins brillants. Et donc, je lis en ce moment La révolution transhumaniste de Luc Ferry.
Oui.
Bon, c'est un peu longué, mais quand même. Voilà, ça fait partie de ces bouquins que je conseille quand même, parce que ça vulgarise la question du progrès scientifique avec la relation éthique. Et je pense qu'arrivent devant nous des tsunamis de questions éthiques qui vont se poser à nous dans les 10-15 prochaines années avec le progrès technologique. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit la question absolument centrale de la silver economy telle qu'elle se développe aujourd'hui. Moi, ce que je retient aussi quand même, c'est que cette nouvelle économie, elle est quand même aussi beaucoup plus positive. Il y a 10-15 ans, on n'arrêtait pas de faire des colloques sur le vieillissement, la dépendance, un gouffre financier à venir, les bouquins, comment ça s'appelait-il, le papy crash, le tsunami gris, voilà. Mais oui, mais c'était ça. Voilà. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on a soupé une littérature qui présentait le vieillissement comme une catastrophe à venir.
Bon. Alors que c'est plus le cas.
Et
on
aujourd'hui,
va le voir avec le prochain livre,
ça me fait penser à la phrase de Bernanos. Il y a le pessimiste, non pardon, l'optimiste. Quand on cite des citations, il faut essayer de les répéter avant, mais là je l'improvise. Donc l'optimiste, c'est un imbécile heureux. Le pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Bon, eh bien, je crois qu'on a intérêt dans notre secteur à appréhender cette question du vieillissement de façon optimiste, parce qu'on voit à quel point elle a vocation à améliorer le sort des hommes.
Alors, je vais en donner une plus courte pour Luc de Bernanos. L'espérance est un risque à prendre. Tu vas voir, tu vas la retenir plus facilement.
Donc le message, c'est soyez optimistes.